Dernier jour de vacances pour les scolaires, une journée un peu particulière sur les plages de Nouméa. La baignade est interdite en dehors des zones sécurisées. Les Nouméens s'adaptent à la situation. Reportage dès le début de ce journal. C'est Cynthia Jean, le nouveau maire de Dumbéa, qui était vendredi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle a notamment été interrogée sur les projets que le nouvel exécutif souhaite mettre en place. La mort d'un soldat français au Liban, âgé de 40 ans, le sergent-chef Montorio appartenait au 17e régiment du génie parachutiste. Il était stationné au Liban dans le cadre de la FINUL. Le monde du cinéma en deuil, Nathalie Baye s'est éteinte hier soir à l'âge de 77 ans. Depuis l'annonce de son décès, les réactions sont très nombreuses dans le monde du 7e art. Et puis le football et la suite de la 30e journée de Ligue 1. Marseille s'enfonce dans la crise après sa défaite 2-0 sur la pelouse de Lorient. La lutte pour la qualification en Ligue des Champions va faire rage jusqu'à la fin de la saison. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. Ce dimanche 19 avril, c'est donc le dernier jour des vacances pour les scolaires. Avant le retour sur les bancs de l'école, ce sera demain lundi. Une période de 15 jours de vacances qui s'achève à Nouméa avec une interdiction de baignade et d'activités nautiques en dehors des zones sécurisées. Vous le savez, une attaque de requins est survenue mercredi soir au large de la Côte Blanche. Elle a contraint la municipalité à prendre ses décisions. La majorité de la population s'adapte donc pour ces derniers jours et ce dernier jour de vacances, Michael Juneski.
Balade à vélo, en trottinette ou alors baignade seulement dans les périmètres de la baie des Citrons et de la plage du Méridien, sécurisés par des filets qui peuvent alors permettre aux amateurs de bain de mer de continuer de se mettre à l'eau. Pour les autres sites appréciés des Nouméens, comme sur Lansbata par exemple, il faudra prendre son mal en patience et se contenter aujourd'hui de regarder le lagon. La plupart des familles comprennent et prennent souvent la chose avec philosophie.
On n'a pas le choix. On va primer sur la sécurité d'abord. Je pense que c'est la meilleure des choses. Après, on a quand même le paysage qui est là encore. Donc c'est déjà cette chance-là, mais on se plaint pas.
Mais on peut rien, on s'ennuie. On va baigner.
Qu'il n'y ait pas de baignade à Lansbata, ben c'est pour la sécurité. Hein. La vie est tellement précieuse qu'il faut coopérer.
Bah, vaut mieux que ce soit interdit que de se faire mordre. Hein. Donc voilà.
Vous étiez en train d'en parler justement,
c'est ça ? Oui, on est en train d'en parler parce que entre les requins, les méduses et puis les raies, les gens ils ont les jetons.
Bah, c'est le même avis que mon copain. C'est vrai, on ne peut pas se baigner. Aujourd'hui, c'est un vrai lac.
Alors hier, ils sont et venus, puis... la mairie, ils avaient des petites épuisettes, ils ramassaient les méduses mortes. Non, pas hier, avant-hier, sur le bord des côtes. Ah, oui. Si c'est des filaments comme ça, même mortes sont dangereuses. Oh, mais faut attendre. Moi, je me baigne là, mais depuis que je suis tout seul, je n'y vais pas.
Le risque requin, ben voilà quoi, il faut obéir aux autorités. Ils nous disent de ne pas aller se baigner, ben il ne faut pas aller se baigner.
On a cette chance, Dieu nous a fait naître dans ce beau pays. Profitons, il y a des lois, certes. Il faut savoir, comme le dit la parole de Dieu, obéir aux autorités.
On s'occupe différemment. On vient quand même observer la mer, regarder le paysage, regarder les bateaux, mais on se promène différemment, à vélo, à pied... Voilà, on fait avec.
On sait que la problématique requin crispe largement le débat en Calédonie. Pour ce promeneur originaire de La Réunion, on ne s'inspire pas suffisamment de l'expérience des crises similaires ailleurs dans le monde.
Bah, en fait, on a le même problème à La Réunion. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens idolâtrent un petit peu et la nature. La nature a toujours été hostile. Et les requins, mais il y a 400 espèces de requins. Donc le problème, ce n'est pas les problèmes avec les requins. Le problème, c'est le problème avec les bulldogs. Et là, ça devient une nurserie à bulldogs. C'est arrivé aussi à La Réunion. Ils s'installent, ils se reproduisent, et après, ils vont surtout tuer les autres requins, les pointes noires, les pointes blanches, les gris. C'est ce qui s'est passé à La Réunion. On a eu un problème pendant longtemps, et beaucoup d'amis ont souffert de ça, ont été mutilés, tués. C'est ce qui est en train de se passer un petit peu ici. On a un état-providence vraiment qui régule pour les inégalités. Il faut aussi certainement réguler la population de certaines espèces, comme tous les animaux, ça reste un poisson.
On rappelle que la mairie et la province sud ont relancé leur campagne de prélèvement de tigres et bulldogs après l'attaque survenue un mercredi soir où un homme a été blessé à bord d'un va. Une attaque mortelle était survenue à la fin du mois de février au large de Lansbata. L'arrêté interdisant jusqu'à nouvel ordre la baignade et les activités nautiques concerne l'ensemble du littoral de Nouméa dans la bande des 300 mètres ainsi que l'îlot Maître et l'îlot Canard. Jusqu'à nouvel ordre donc. Les filets de sécurité permettent toutefois encore aux Nouméens de pouvoir profiter de la baignade dans les périmètres de la baie des Citrons et de la plage du Méridien.
À quelques mots de l'actualité aérienne, à la suite d'un problème technique sur l'un de ses A330 Neo, Air Canada est contrainte d'ajuster ses vols. Ainsi, les vols SB500 et SB501 Nouméa à Paris via Bangkok et retour du 20 avril sont reprogrammés. programmée comme suit. Le vol SB500 Nouméa à Bangkok partira demain lundi à 13h30. Le vol retour arrivera depuis Bangkok le mercredi 22 avril à 4h35. Il arrivera à 18h30 le 22 avril à Nouméa. Départ donc du vol Nouméa Paris via Bangkok demain à 13h30. Retour de ce vol le 22 avril à 18h30. Et c'est le nouveau maire de Dimbéa, Cynthia Jean, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle a été interrogée, Mickaël, sur ses urgences et sur ses priorités.
Une élection à la tête de Dimbéa due, selon Cynthia Jean, à son travail de terrain et à celui de son équipe, mais aussi, estime-t-elle, à la ligne claire de sa liste face aux ambiguïtés de l'équipe sortante. Elle se retrouve aujourd'hui aux commandes d'une commune qui a beaucoup souffert des violences insurrectionnelles de mai 2024.
La commune est meurtrie, elle a perdu 130 entreprises qui ont été détruites, 80% du tissu économique. On a de nombreux bâtiments publics qui ont été détruits. Et puis surtout, il y a des séquelles dans les cœurs de chacun, au-delà des destructions matérielles, des destructions économiques. Il y a une perte de confiance de la part de la population et puis un niveau de tolérance qui n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire que la population ne tolère plus d'intrusion dans leur tranquillité. Les Dimbéas aspirent à vivre tranquillement dans leur quartier et c'est cette confiance qu'il faut rétablir. Ce travail de proximité dans les quartiers au quotidien sera aussi important que le renforcement de notre activité économique.
Dans ce contexte, le rétablissement de la sécurité est l'une des priorités de Cynthia Jean, mais elle insiste sur la nécessité de la proximité. Il y a, sur la commune, des gendarmes territoriaux et mobiles, mais elle va demander le passage de la partie sud de Dimbéa en zone police.
Il y a un travail de proximité qui doit se faire. Il faut renouer absolument entre l'ordre républicain et les citoyens. Et ça passe par des Calédoniens ou des personnes installées depuis longtemps sur le territoire qui portent l'uniforme, qui vont aller au-devant des populations et qui vont reprendre contact, rétablir l'ordre, réimposer l'ordre en étant au plus proche des populations. Et je ne crois pas que des gendarmes mobiles présents pour 3 mois puissent incarner cette proximité. Ce sont des forces de l'ordre qui sont complémentaires mais qui ne suffisent pas à elles seules. C'est pour ça que l'un de nos projets et de faire intervenir la police nationale sur le territoire de Dimbéa.
Et ce rétablissement de la sécurité passe aussi par une volonté de renforcer l'armement de la police municipale. Dans un autre domaine, la commune est candidate à l'accueil du RSMA qui doit s'implanter dans l'agglomération. Et Cynthia Jean estime que Dimbéa a de nombreux atouts pour cela.
L'un de nos terrains a été identifié comme étant un terrain qui garantit toutes les caractéristiques techniques nécessaires, un terrain qui se situe dans la ZAC Panda, qui est un terrain plat, entièrement disponible, qui est situé au cœur d'une zone économique. Il y a 160 entreprises dans ce quartier. Elles ont manifesté leur intérêt pour la présence du RSMA, puisqu'elles pourront offrir très facilement un cadre de stage et de formation aux jeunes, sans que la question du transport ne pose le moindre problème puisque tout ça se ferait dans le même quartier. On a un soutien très fort également des coutumiers de l'endroit puisque le clan qui est un voisin direct de la ZAC Panda a émis un avis très favorable, souhaite l'installation du RSMA sur la commune. C'est une situation très différente dans les communes voisines, donc nous on a la chance d'avoir des coutumiers qui ont compris tout l'intérêt d'avoir un équipement militaire sur notre commune. Et puis Dimbéa est sur un axe stratégique entre Nouméa, la Brousse et puis l'aéroport de Tontouta. Et enfin, notre commune n'a pas d'équipement militaire structurant.
Parmi les gros chantiers de la nouvelle équipe municipale, celui du logement social, alors que Dimbéa compte 30% d'habitat social sur l'ensemble de la commune et que dans certains quartiers, cela monte à 50 voire 60% des taux complètement inhabituels.
On sait que c'est source de conflits. Les bailleurs sociaux doivent davantage suivre les locataires qui ne respectent pas les règles dans ces logements sociaux. Une majorité de gens, bien sûr, aspirent à y vivre tranquillement. Une minorité sème la terreur et doit être sanctionnés et déplacés. Il y a une insuffisance de médiation dans ces logements sociaux. Nous avons dans notre programme le projet d'y installer des concierges, des gardiens d'immeubles qui permettent d'assurer tous les petits travaux, qui fassent aussi le lien entre la mairie et les bailleurs. J'ai rencontré hier des responsables du FSH qui sont entrés dans cette réflexion, qui ont commencé à mettre en place ce qu'ils appellent des référents. On voit que dans le quartier de Jacarandas, par exemple, ils ont réinvesti les locaux de l'ancienne maison de quartier abandonnée pour y installer une salle de sport. au service des jeunes, des enfants du quartier en proximité. Ça fonctionne. Il y avait 45 enfants lors de la première heure d'ouverture ce lundi. Donc, il faut convaincre l'ensemble des bailleurs de s'engager dans cette voie et d'accompagner davantage les habitants.
Le nouvel exécutif de Dimbéa veut, par ailleurs, travailler en proximité avec l'ensemble de collectivités et notamment la province sud et le gouvernement. Interrogé enfin sur la situation institutionnelle, Cynthia Jean affirme que seul un accord politique donnera aux investisseurs la confiance et la visibilité et elle prône l'union la plus large des partisans de la France.
Nous défendons l'accord politique. Bien sûr, nous pensons que c'est indispensable dans l'époque dans laquelle nous sommes, puisqu'on voit que les indépendantistes, eux, n'ont pas renoncé à leur volonté d'accéder à la pleine souveraineté. Nous avons une voie médiane qui s'est installée, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent ou ce qu'ils pensent du dégel du corps électoral, par exemple. On a vraiment des craintes à avoir de ce côté-là. Donc nous, on est partisans d'une union totale de la famille non-indépendantiste au provincial. On voit bien à Dimbéa que nous avons réussi à faire cette union. J'espère que Dimbéa va inspirer les élections provinciales. Ce n'est pas un problème de personne, c'est un problème de mettre ses égos de côté, de regarder la situation globale, de prendre de la hauteur et de conduire la province sud vers le chemin qui doit être le sien. Une province prospère économiquement, stable politiquement, avec un maintien fort dans la France.
Une interview de Cynthia Jean à retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera par ailleurs rediffusée dans son intégralité ce soir, juste après notre édition de 17h45.
L'actualité politique, c'est aussi, rappelons-le, Génération NC qui soutiendra Sonia Bekes aux élections provinciales dans le Sud et qui appelle à l'unité des loyalistes en vue du scrutin. Le parti de Nicolas Metzdorf tenait hier son conseil politique au Mont d'Or. Sport et musique, les deux ingrédients qui ont fait le succès hier soir de la première édition de l'Electro Race au Centre culturel Chibaou. Le rendez-vous a attiré plus de 500 participants au programme. Un parcours de 5 km à réaliser en nocturne et plus de 3 heures de concerts de musique électronique avec la présence de plusieurs DJ.
Ouais, la musique à la course, je crois. On va faire la fête avec les copines et puis faire un peu de sport quand même, accessoirement.
C'est l'occasion hein, de voir des gens, de profiter et puis d'être un milieu plutôt sympa globalement. On encourage les initiatives.
L'idée c'était de s'habiller coloré et un peu festif, donc voilà. J'ai mis une petite guirlande dans mes cheveux.
Un cadre exceptionnel quand même, faut reconnaître que c'est vraiment un endroit magnifique.
C'est plutôt la musique parce que le sport c'est pas trop ça, mais ouais, faire une petite sortie entre copines et un peu fun.
Ah, c'est le spot, c'est la soirée et c'est surtout la rando et puis se rassembler. Voilà, et franchement, ça vaut le coup. Ouais.
Vous êtes venus en famille, vous, alors, pour l'événement?
Oui, on est venus en famille, donc c'est une belle expérience, première fois qu'on vient. Et oui, les enfants, ils adorent l'ambiance, les lumières. C'est super, franchement, c'est vraiment une belle occasion de faire ça depuis les événements et puis surtout dans un cadre magnifique. Donc merci beaucoup d'avoir organisé un événement qui rassemble tout le monde, petit et grand.
À l'Electro Race, première du nom, était organisée par l'association Fit Énergie. Et puis animation au premier marché de l'année du parc provincial de la Rivière Bleue. Une vingtaine de producteurs de Yaté et du Mont d'Or sont sur place jusqu'à 14h. Joël de la Fenêtre est responsable de l'accueil du parc provincial de la Rivière Bleue.
Il fait beau. On a une vingtaine d'exposants, donc des exposants plutôt du Grand Sud, c'est-à-dire Yaté, Mont d'Or, voilà, et on a un peu de produits vivriers, on a des plantes, on a un sculpteur qui est là, on a aussi de l'artisanat avec des paniers, et puis un producteur de miel aussi. Ça marche très bien. Là, on est à plus de 120 personnes qui sont rentrées dans le parc depuis ce matin. Donc les exposants, ils sont super contents, ils vendent très très bien. Il n'y a presque plus de bananes, dire aux gens de venir, il fait super beau. Et donc, voilà, venir profiter de sa journée au parc. En plus, le parc, il est gratuit aujourd'hui.
Et le marché du parc provincial de la Rivière Bleue se poursuit jusqu'à 14h. Il est midi et 15 minutes. On va marquer une première pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Week-end avec l'actualité nationale et internationale. On retrouve Lionel Sabon.
Et au 50e jour de guerre, un soldat français a été tué la nuit dernière pour nous au Liban, dans un contexte de cessez-le-feu particulièrement fragile entre le Liban et Israël. Un militaire français qui a perdu la vie était père de 2 enfants. Il avait servi quelques mois en Nouvelle-Calédonie. Il était aussi sur le point de revenir à la vie civile. Le drame a également fait 3 blessés, dont 2 ont été gravement blessés. Laura Legault pour Europe 1.
Le sergent-chef Florian Montorio, 40 ans, a été tué ce matin en mission dans la région de Deir Kiffa. Il appartenait au 17e régiment du génie parachutiste de Montauban. Son chef de corps de régiment décrit un militaire d'exception.
Florian était profondément généreux et profondément courageux. Il était parti dans un état d'esprit qui le caractérisait très bien. C'est-à-dire la volonté de servir, la volonté d'être utile à son pays et aux populations locales. Florian était évêque au terme de son parcours militaire et d'ici à quelques mois, il était prévu de revenir à la vie civile.
3 de ses frères d'armes ont également été blessés, dont 2 grièvement. Ils étaient déployés dans le cadre de la FINUL, les forces intérimaires des Nations Unies au Liban. Une opération de maintien de la paix lancée en 1978. Sur les 7000 casques bleus stationnés, plus de 600 sont français. Ils sont positionnés au sud du pays, dans une zone contrôlée par le Hezbollah, avec un objectif, désarmer la milice chiite, comme l'explique Pierre De Jong, ancien colonel.
Cette unité du génie a pour mission, en fait, de trouver les caches d'armes, trouver les dépôts de munitions. Ils en trouvent régulièrement. À partir de là, il faut théoriquement les détruire, puisqu'il faut désarmer et démilitariser le sud Liban.
C'est lors d'une mission d'ouverture d'itinéraire vers un poste de la FINUL que les soldats ont été pris en embuscade. Emmanuel Macron accuse le Hezbollah. Ce ne serait pas la première fois que le groupe armé attaque les casques bleus. Mais le Hezbollah dément toute implication. Les autorités libanaises ont promis de poursuivre les responsables de cette attaque.
Alors, à Legault du service international de Europe, la trêve actuelle au Moyen-Orient a été mise à mal également dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz en particulier. Les Iraniens ont annoncé en reprendre le contrôle strict moins de 24 heures après l'annonce de sa réouverture par Donald Trump. Donald Trump qui n'a pas manqué de réagir.
Ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas d'armée de l'air, ils n'ont pas de dirigeants, ils n'ont rien du tout. On appelle ça un changement de régime imposé. Mais nous discutons avec eux. Ils voulaient fermer à nouveau le détroit d'Ormuz. Vous savez, comme ils le font depuis des années. Ils ne peuvent pas nous faire chanter. Nous sommes en discussion avec eux et vous savez, nous adoptons une position ferme. Ils ont tué beaucoup de gens.
Le président américain qui réagissait donc à la fermeture de nouveau du détroit d'Ormuz par les Iraniens. L'Iran qui, dans le détroit, a même ouvert le feu sur un pétrolier ces dernières heures par l'intermédiaire de 2 vedettes des gardiens de la Révolution, le bras armé de la République islamique. Un retournement de situation intervenu en moins de 12 heures et qui témoigne de tensions au sein même des instances iraniennes. David Rigoletto est spécialiste du Moyen-Orient.
Il n'y a pas une seule voix en Iran. C'est ça la difficulté. La réouverture du détroit avait été annoncée par un tweet du ministre Abbas Araghchi. Ce tweet lui a été fermement reproché par un certain nombre de membres du régime et notamment des gardiens de la révolution. Et donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout consensus en fait sur les modalités et les objectifs des négociations en cours. Et effectivement, certaines factions, notamment les factions des gardiens, puisque c'est la marine des gardiens qui a été en cause dans le fait que des bateaux, notamment indiens, ont été visés, c'est une manière de montrer que c'est les gardiens qui veulent avoir le dernier mot et que les négociateurs, de toute façon, sont soumis à l'aval des gardiens de la Révolution. Donc c'est le signe d'une tension surtout interne, en fait.
David Rigoletto, spécialiste du Moyen-Orient, invité d'Europe 1 Week-end. L'actualité en métropole et le cinéma français qui est donc en deuil. On a appris la mort de l'actrice Nathalie Baye. Elle s'est éteinte hier pour nous à l'âge de 77 ans des suites d'une maladie neurodégénérative. Cette star extrêmement discrète avait joué et tourné avec les plus grands et avait remporté 4 Césars. La disparition de Nathalie Baye a suscité évidemment une vague d'émotions et d'hommages. Le metteur en scène Elie Chouraki avait fait tourner Nathalie Baye dans son tout premier film Mon premier amour. C'était en 1978.
C'était l'actrice qu'il fallait absolument avoir dans son film quand on tournait dans les années 75-80. Elle était l'émergence de tout ce cinéma français qu'on a eu à cette époque qui a été énorme. Quand je l'ai rencontrée la première fois, de voir qu'elle confirmait ce que disait la rumeur, c'est-à-dire qu'elle avait quelque chose de différent, qu'il y avait un grain de folie en elle, vraiment un grain de folie. Et ce grain de folie apportait quelque chose à son jeu qui était... très émouvant et très agréable à regarder parce qu'elle avait... C'était la petite française, c'était le charme et la séduction. C'est la parisienne. Voilà, c'est la Parisienne.
Élie Chouraqui, invité d'Eliott Deval sur Europe 1. Autre réaction, celle de Mathilde Seigné, qui avait tourné avec Nathalie Baye dans Vénus Beauté Institut, film de Tony Marshall, qui avait valu à Nathalie Baye l'une de ses 10 nominations au César.
Ce qu'elle a apporté au cinéma français, c'est qu'elle avait quelque chose de Madame Tout-le-Monde, et elle pouvait jouer des rôles tout à fait normaux, de femmes normales. Après, des actrices comme Bardot, qui étaient plus clivantes dans la mesure où c'était des physiques spectaculaires qui ne pouvaient pas être possibles pour jouer, je vous dis n'importe quoi, une boulangère ou voilà. Nathalie, elle était complètement possible dans des rôles de la vie, des femmes de la vie. Elle compte dans le cinéma français et elle est quand même assez légendaire parce que dans un style particulier, elle laisse beaucoup, beaucoup de films. Si vous interrogez des Français, ils ont beaucoup de films à citer avec Nathalie Baye, et ce n'est pas le cas de toutes les actrices. Elle a vraiment une filmographie formidable.
Un témoignage de Mathilde Seigné, qui avait donc joué avec Nathalie Baye dans Vénus Beauté. Nathalie Baye qui s'est éteinte hier soir à l'âge de 77 ans. Il est midi et 22 minutes. On va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 23, 24, 25 avril prochain pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est vraiment le rendez-vous auto. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise, de grandes nouveautés à découvrir en exclusivité et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Animation, jeux, surprises pour toute la famille et 1 million de francs de carburant à gagner. Entrée gratuite, ouverte toute la journée dès 7h30. Le grand Salon du Village Automobile. C'est du 23 au 25 avril au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 30 avril. Valeur totale du lot 1 million de francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on commence avec du football et la suite ce matin de la 30e journée de Ligue 1. 4 journées de la fin du championnat et de la saison. La lutte s'intensifie notamment pour le podium, Mickaël.
Et d'ailleurs, Lille et Nice ont fait match nul aujourd'hui. Les Lillois qui restent ainsi 3e du championnat de France grâce à la défaite un peu plus tôt de l'OM. C'était sur le terrain de Lorient cette fois. Défaite de l'OM 2-0. L'Olympique de Marseille qui a perdu gros en s'inclinant pour le compte de cette 30e journée. Défaite donc 2-0. Le staff de l'OM ne décolère pas. Écoutez la réaction d'Habib Bey, le coach marseillais.
Non, je suis très en colère aujourd'hui, vous le voyez. Très en colère sur les attitudes, oui. Et sur l'esprit qu'on doit avoir quand on est un joueur de l'Olympique de Marseille. Ça veut dire que concrètement, on n'est pas prêt et on n'est pas fait pour être en Ligue des Champions cette saison. Demain soir, on peut être 6e de Ligue 1. C'est une réalité. Et quand on est à l'Olympique de Marseille, on ne doit pas l'accepter. Et si on doit aller sur les 4 derniers matchs avec des jeunes qui peut-être, eux, ont cette fin de bien finir cette fin de saison, on ira. Mais il est hors de question de revoir le visage qu'on a vu ce soir de l'Olympique de Marseille.
Un autre résultat aujourd'hui, Angers et Le Havre qui se sont quittés sur un score de parité, un but partout. Les Angevins et les Havrais restent respectivement 13e et 14e du championnat de France. La suite des rencontres ce soir et demain matin.
Et notez que Lille et Nice ont fait match nul effectivement ce matin, 0-0. Vous ne nous aviez pas donné le score. L'on passe au rugby avec le championnat de France, le top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Allez, on dispute ce week-end la 21e journée. Bientôt, là aussi, la fin de la saison régulière.
Et on va essayer de donner les scores hein, cette fois. Et tout d'abord, Toulouse qui a repris sa marche en avant. Et oui, après avoir été éliminé de la Champions Cup le week-end dernier, eh bien, le Stade Toulousain a dominé aujourd'hui son voisin Castres. Succès 42-25. Toulouse qui s'envole au classement du championnat de France. Les Toulousains comptent désormais 12 points d'avance sur leur premier poursuivant, la section paloise. De son côté, l'Union Bordeaux-Bègles, bourreau de Toulouse en Champions Cup justement, eh bien s'est incliné pour sa part sur le terrain de La Rochelle, 45-15. Une bonne opération également pour Clermont aujourd'hui qui est dans le top 6 à l'approche des phases finales grâce à une victoire sur Lyon, 41-23. La section paloise a décroché de son côté un large succès à l'extérieur, à Bayonne, 54-22. Montpellier s'est imposé sur Perpignan l'avant-dernier, 42-31. Et le RC Toulon de son côté peut encore envisager une place en play-off. Après après avoir dominé la lanterne rouge. Montauban, 47-22. Les Toulonnais sont 8e. Demain, il restera à suivre une belle affiche, le derby francilien, le Racing 92 contre le Stade Français.
Et j'aurais pas pu vous aider sur les scores ce coup-là, parce qu'un 0-0, c'est quand même plus facile à retenir qu'un 42-25 ou un 45-15. Le rugby au féminin, le 15 de France dames a décroché un nouveau succès dans le tournoi des 6 nations. Les Françaises ont surclassé les Galloises, 38-7. La France et l'Angleterre sont toujours à égalité de points en tête du classement. Les Anglaises qui ont pour leur part infligé une correction aux Écossaises. Score final sans commentaire, 84-7. En rugby à 7, les Bleus avec Yolande Yengo et Anaïk Conny sont en course pour une place en finale de l'étape du circuit mondial à Hong Kong. L'équipe de France affrontera les Australiennes à 16h37 cet après-midi. L'autre demi-finale se jouera entre les Canadiennes et les Néo-Zélandaises. Et puis un petit mot de tennis et Arthur Fils qui jouera la finale de l'ATP 500 de Barcelone. Il fera face au Russe Andriy Rublev pour le titre. Ce sera sa deuxième finale de l'année après le tournoi de Doha et déjà sa quatrième finale sur un tournoi ATP 500 en carrière. Le sport en Calédonie pour terminer, le X-Deva qui s'est conclu ce dimanche à Bouraï avec une épreuve de VTT qui a mis les participants à rude épreuve.
Le clap de fin sur ce week-end sportif en effet avec le vélo tout-terrain sur une distance de 29 km ce matin. La victoire est revenue à Jonathan Berger au sprint pour une petite seconde d'avance seulement sur Chris Jenner. Grégory Potier complète le podium. Jonathan Berger, le président par ailleurs du club de l'Enfer du Nord basé à Koumac, a trouvé le paradis sur les pistes de Bouraï.
Une course ensoleillée, des conditions parfaites, ensoleillées mais pas trop non plus, donc ça nous a permis de rouler un petit peu en peloton avec les copains. C'était très 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 sympathique de partager des moments avec les copains sur les pistes. Et puis on va dire qu'il y a eu un éclat dans le peloton dans une côte, donc j'ai pu me détacher, j'avais choisi aussi de partir à ce moment-là, enfin je me suis fait un peu surprendre. J'avais des fourmis dans les jambes, je suis parti et quand j'ai levé la tête, j'ai vu la côte, j'ai fait oups. Et au fait, la côte est passée, j'arrive en haut avec Chris Jenner. Et visiblement, on avait creusé 1 minute 40 dans la bosse. Donc voilà, après, on a géré jusqu'à l'arrivée. Et effectivement, ça s'est réglé au sprint dans les derniers mètres. Donc vraiment agréable de rouler avec les copains et en compagnie de Chris encore plus. Donc que du bonheur. Bravo à eux d'avoir maintenu l'événement. Bravo aux bénévoles, merci à eux. Vraiment, les tracés aujourd'hui étaient au top. Vraiment, félicitations à eux pour leur motivation et à l'organisation, bien sûr.
Et chez les féminines, Sandra Guérald du CTNC a terminé en tête. Elle a devancé Jessica Belenguez et Céline Hirziel. Je rappelle que sur le cross triathlon hier en solo, c'est Frédéric Coulson qui s'était imposé, tout comme Gabriel Fernandez chez les féminines. Plus de 200 participants étaient engagés sur tout ce week-end sportif à Bouraï organisé par le CTNC, le X-Deva.
Et personnellement, quand je vois une côte à vélo, je fais pas oups, je fais demi-tour. Les résultats pour terminer ce journal, vous en avez d'autres, Mickaël?
C'était la reprise pour le drift à Boulou-Paris ce samedi. Le circuit de Tomo-Valley qui accueillait le premier round du Monster Energy Drift Championship chez les pros. Jiri Roubi est arrivé en tête devant Kerian Chedorge et Alexis Barbou Junior. En loisir, c'est Edouard Maussem qui l'a emporté devant Daryl Deschamps et Marc Curé. Il y aura deux nouvelles dates pour la discipline. Le 20 juin, toujours à Tomo-Valley. Puis le week-end du 17-18 octobre à Païta. Ce sera la grande finale sur le parking de l'Arène du Sud. Du football, la 5e journée de Super League. La victoire de Les Lossy sur Magin. À 1-0. Une surprise avec l'AS Cougnet qui a battu le tenant du titre, Tigasport, 2-1. Gaïcha l'a emporté sur Horizon Pato, 1-0. Le CA Saint-Louis s'est imposé sur Nejiu, 2-1. Et puis, hors du territoire, il y a notamment du judo, les Océaniens en Australie, dans les catégories jeunes. La délégation calédonienne a notamment décroché hier 2 médailles d'or avec Moira Falevalu chez les moins de 70 kilos, Ashley Souta chez les moins de 78 kilos. La compétition continue aujourd'hui pour les seniors.
Merci Mickaël, il est pile 12h30, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 13h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi sur Radio Rythme Bleu. À tout à l'heure.